Mars 2020, le début d'une nouvelle vie, les habitudes changent, les repères évoluent, le monde s'arrête et enfin nous voilà face à nous-mêmes. On se découvre, on souffle, on s'adapte et maintenant on fait quoi? Midi, le réveil sonne, le soleil tape, la journée peut commencer, mais les cours me fatiguent déjà. Manger, dormir, travailler, redormir, manger, regarder la télé, si l'école est fermée et que les journées se ressemblent beaucoup entre elles, libre à nous à les organiser comme on le désire. Une forme de soulagement s'installe, mais le soulagement n'est que de courte durée. Et la deuxième emporte tout sur son passage. L'été laisse la place à l'automne, et l'anxiété s'installe, petit à petit. Réfléchir, réfléchir, dormir, réfléchir, manger, réfléchir, stagner. Le cerveau bouillonne, et les premiers symptômes du malaise apparaissent. Toutefois, si le confinement est terminé, le malaise chez les étudiants est toujours présent. Comment le guérir? Quel est l'antidote? Ce sont ces questions qui vont structurer le podcast que vous écoutez aujourd'hui. Nous sommes la classe de 6 TQB de l'Institut Sainte-Marie et pour réfléchir sur le mal-être des étudiants et trouver des échappatoires, cette émission se découpera en 3 parties par Aleina et Cornelia.
Alors bonjour, moi je suis Aleina, une élève de la classe. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Cornelia, Hélène, Tatiana et Amani. On va tout de suite commencer avec le podcast et j'espère que ça va vous plaire. Alors Cornelia.
Alors donc on va d'abord poser une question de... Enfin j'aimerais vous poser une question de pourquoi est-ce que donc, vous trouvez que c'est important de parler du mal-être et des sources du bonheur. Donc est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole?
Oui du coup moi. Donc je m'appelle Tatiana. Je pense que c'est important parce que on reconnaît pas forcément quand un jeune il est pas bien. Et puis, vu qu'on est jeune, on est entouré dans le cercle. Vous êtes jeune, vous n'avez pas le droit d'être bien. Votre vie, elle est trop facile. C'est école, maison, maison, école. Vous avez toute la vie devant vous pour vous sentir mal, alors que pas forcément. Enfin, on est dans le pire moment de l'âge, je trouve. Donc, c'est là où on se cherche un peu, où on ne va pas bien donc, mentalement ou autre. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est essentiel de parler de ça, histoire que d'autres jeunes puissent se reconnaître et... connaître un peu plus sur le sujet et se sentir moins seul.
Ouais, bien sûr. Et Aleina aussi, tu voudrais partager quelque chose?
Oui, moi je voudrais bien mettre quelques mots là-dessus. Je comprends totalement ce que tu dis et franchement, moi, je pense que ça aurait été vraiment sympa d'avoir de quoi comprendre en fait le sujet et on n'est pas vraiment renseigné sur ça alors que ça touche énormément de personnes et énormément de jeunes. Et en fait, c'est important, justement. C'est pas parce qu'on est jeune que forcément, c'est bon, je vais bien, je suis heureux, je sors tous les jours. Non ! Moi, j'adore rester chez moi, donc voilà. Et en fait, au contraire, même si on fait tout le temps ce qu'on aime, on peut se sentir seul ou se sentir mal. Donc, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si je suis énervée, je crie. Et si je suis heureuse, eh ben... Je le fais remarquer, en fait, tout simplement. Donc, on va tout de suite commencer et apprenez-en avec moi.
Merci beaucoup, du coup, pour vos réponses. Et donc, on va directement parler de l'isolement avec Tatiana, qui va qui a fait un micro-couloir, du coup, dans notre Institut Sainte-Marie. Et donc, Tatiana, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ça?
Oui, bien sûr. Du coup, mon micro-couloir a été réalisé donc, avec Noé et il a été basé par rapport à 4 grandes questions. Donc, la première est « C'est quoi l'isolement ?» La deuxième est « As-tu déjà vécu ?» La troisième est « Comment as-tu fait pour en ressortir ?» Et la dernière est « Qu'est-ce que tu conseillerais pour que les jeunes souffrent moins d'isolement ?» Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça n'arrive pas en fait ? Et du coup, on a interviewé des élèves de 5 TQ. Et voilà, c'est tout.
Donc voilà, Noé, tu peux lancer le micro-couloir.
Oui, je m'appelle Mélissa.
Bah, moi, je m'appelle Rai.
Je suis en 5TT, je suis en option théâtre.
Ah, je suis en 5TT et je fais art.
Et c'est quoi l'isolement pour toi ?
Pour moi, l'isolement, ça peut être une bonne chose et ça peut être une mauvaise chose pour certaines personnes.
Et ouais, être enfermé à l'intérieur, ne pas possible, ne jamais sortir, ne pas pouvoir voir ses potes, ne pas pouvoir parler aux autres, c'est vraiment juste être avec toi-même, quoi.
Bah, quand t'es un peu coupé... du contact avec les gens.
J'ai vécu l'isolement, on va dire, enfin une sorte d'isolement pendant 4 ans. J'étais en internat, je ne voyais plus ma mère et tout ça, mais c'est plus personnel.
En 2020, je pense, en mars, j'étais tout à fait confiné, on ne pouvait plus aller à l'école, on ne pouvait plus jamais sortir, etc. Du coup, c'était horrible.
J'ai été 2 ans en Malaisie et... pendant le Covid, et du coup, j'étais en isolement là-bas, oui.
Une des pires sensations, je me sens extrêmement triste et extrêmement désespéré.
Qu'est-ce que tu fais, plus ou moins, quand tu ressens que t'es isolé ? Qu'est-ce que je fais ? Bah, j'essaie de pas trop y penser, de me distraire avec d'autres trucs, et me dire que c'est pas grave.
Bah, normalement, je sortirais dehors, mais vu que ça, c'était pas possible à ce moment-là, je joue aux jeux vidéo, ça me permet de transporter dans un autre monde.
Qu'est-ce que tu conseillerais pour que les jeunes souffrent moins d'isolement ?
Je dirais de commencer à apprécier leur propre compagnie.
N'hésitez pas à parler avec les autres via les réseaux, même si c'est pas la même chose, ça aide quand même un minimum, et c'est suffisant.
Juste croire en leurs rêves, et croire en eux, surtout.
Faites des choses qui vous font kiffer, genre, une fois que vous avez une idée... Allez-y, n'hésitez pas, vous avez quand même pas vraiment grand chose à faire. Soyez vous-même, quoi. Prenez du temps à vous connaître.
Merci Tatiana pour ce micro-couloir. Est-ce que tu voudrais un peu nous parler de ton expérience, comment tu l'as vécue ? Est-ce que ça t'a touché d'ailleurs ?
Oui, je les ai trouvés très matures en parlant du sujet. Mais c'est marrant parce qu'ils avaient tous un point de vue assez différent de l'isolement. Donc, c'était pas tout le temps pareil. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir des points de vue différents. Mais ils ont tous dit que c'était globalement être coupé. Donc, l'isolement pour eux, c'est être coupé du monde ou des gens. C'est tout.
Moi, j'ai retenu quand même quelques mots de ça. Il y a une fille qui a dit qu'on doit d'abord aimer sa propre compagnie.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, c'était un peu drôle, on va dire, mais c'est réel, en fait. Parce qu'on se néglige beaucoup, alors que même si on veut aimer les autres, en fait, on doit d'abord s'aimer soi-même parce qu'on fait ressentir une sorte de sentiment triste. Si soi-même, on sent mal, donc il faut d'abord s'aimer. Et grâce à ça, tout le monde sera heureux, en fait. Je vous dis pas d'être incroyable, hein, mais un minimum, genre apprenez à vous aimer et prenez soin de vous sans arrêt. Prendre soin de soi, c'est pas forcément dépenser de l'argent pour faire je sais pas quoi, hein, mais vraiment prendre des bains, prendre des soins, manger avec sa famille, des bêtes trucs, sortir ou quoi. Mais bref, je parle beaucoup là. Cornelia.
Non, je trouve vraiment ce que tu dis, c'est vrai. Et surtout que maintenant dans la société, souvent être seul, faire quelque chose seul, aller au restaurant tout seul, c'est mal vu. On se dit, oh, il fait de la peine, il n'a pas d'amis, il est parti manger tout seul. Alors qu'en vrai.
On kiffe sa vie. Hein.
Oui, mais personne ne peut nous rendre encore plus heureux que nous-mêmes en fait. Si nous on s'aime, si on aime notre propre compagnie. Bah, si on sort avec nos potes, on sera encore plus heureux, mais je veux dire, on aura déjà un temps incroyable, rien qu'avec nous-mêmes. Du coup, franchement, je trouve que c'est forcément un truc qui s'apprend. Ça prend du temps, bien évidemment, parce que c'est pas quelque chose dont on est habitué, mais il faut vraiment essayer de le faire, et voilà.
Ouais, c'est ça, faut pas être gêné, alors que bah, c'est vous, quoi. Aimez-vous, en fait. Mais bon. Alors, merci pour vos commentaires et
avec plaisir.
ça a été vraiment intéressant en fait, parce qu'on a dit un peu beaucoup de choses, mais ça revient toujours au même point. Alors Cornelia, toi tu as fait un petit jeu.
Oui.
Est-ce que tu voudrais nous partager?
Bien
on
sûr.
S'amuse un peu.
Bien sûr, alors déjà tout d'abord, est-ce que vous connaissez la gélothérapie?
Non.
Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu. La gélothérapie, donc, elle consiste à faire rire le patient. Donc c'est pour les personnes qui sont dépressives ou qui se sentent pas bien. Bah, en fait, c'est une thérapie qui, avec le rire, ça te permet d'aller mieux. Parce que, comme on le sait très bien, le rire, ça a toujours été le médicament. Enfin, le rire, c'est la santé, en fait. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'ai préparé un petit jeu de définition pour pouvoir mettre quelques mots, en fait, enfin, pour pouvoir définir des différentes parties, on va dire, du malaise. Et donc, j'ai fait quatre définitions, on va dire, enfin, sur l'anxiété, sur l'angoisse, la dépression et la phobie scolaire, puisque je trouve que c'est un peu les quatre points qui touchent la plupart du temps les jeunes. Alors, on va commencer par l'anxiété. Donc, je vais vous dire trois propositions et vous allez pouvoir me répondre d'après vous laquelle est la correcte, en fait. Mm-hmm. Donc, l'anxiété. Tout d'abord, c'est quand tu ressens une inquiétude pénible, une tension nerveuse, généralement causée par l'incertitude ou l'attente plus ou moins consciente d'un danger ou d'un problème à venir. Ensuite, c'est quand le soir, par exemple, tu te rends compte que tu n'as plus d'ongles parce que tu les as tous bouffés. Ou alors, c'est lorsque tu dois montrer ton bulletin à tes parents.
Moi, je dirais que c'est aucun. Je dirais que c'est plutôt quand je me lève à 3h du matin que j'oublie que j'ai fait un devoir et que j'ai plus le temps de le faire. Et du coup, je m'endors anxieuse.
C'est horrible.
Ouais.
Je me réveille en sueur et tout. Mais... vu que la première, elle était super longue, c'est sûrement elle. Mais la dernière, quand je montre mon bulletin, ça me fait stresser. Je suis en angoisse alors que... Même si en fait, il est bien, les parents, ça fait stresser. Vraiment, c'est réel.
Mais non, bien sûr.
Donc moi, je dis les deux.
Ouais. Voilà. Après, bon, la correcte, on va dire, c'était la première. Mm-hmm. Mais en effet, on peut très bien prendre les trois et... Et ça peut définir très bien l'angoisse tous les trois,
ouais,
en fait.
C'est personnel, en soi.
Enfin, l'anxiété, pardon. Maintenant, on va passer à l'angoisse. Voilà. Donc, c'est quand tu n'oses plus prendre le bus pour aller voir tes potes, parce qu'ils vont tous à le port du masque obligatoire. Ensuite, l'angoisse, c'est une sensation qui est diffusée du mal-être que l'on a du mal à circonscrire. Donc c'est une impression de danger latent et permanente, contrairement au stress qui survient dans des circonstances précises. Ou alors, c'est quand je dois passer un oral et que je sais que tous les regards seront posés sur moi en classe.
C'est le regard posé sur moi en classe.
Ah ouais ? Toi, tu es toujours angoissée ?
Ouais.
C'est
un exercice difficile pour moi.
Mais j'avoue que quand on doit passer un oral, c'est vraiment le moment, je crois, le plus stressant d'un élève à l'école. C'est tu te prépares 3 jours à l'avance et même encore les...
T'es en train de passer, t'es toute chaude.
Ouais, tu trembles, tu... On perd la parole. mais
c'est la plus longue, voilà, c'est simple. Et il y avait des mots trop français, c'est pas mal.
En effet. Et du coup, la dépression... Soyez prêts à rigoler, on va dire. Donc, la première proposition, c'est quand tu es heureux parce qu'il pleut des cordes.
Comme là, maintenant, du coup. Plus ou moins.
Non, mais c'est une métaphore.
Ouais, je sais.
Bon, j'expliquerai après si jamais vous n'avez pas compris. C'est quand, ensuite, tu es triste, que tu n'arrives plus à faire des choses simples comme te lever ou te faire à manger. Tu es tout le temps fatigué, tu manques d'énergie, tu n'as plus trop d'estime de toi. Ou alors, c'est quand, pour vivre heureux, tu vis caché.
Les trois.
Ouais.
Caché.
Ouais.
Un cachet.
Caché. Ça le cachet.
Ouais, le cachet.
Quand tu prends des médicaments pour être heureux.
Mais c'est les trois, hein, clairement. Ouais. T'es dépressif, tu veux rien voir.
Ouais,
y a tout qui
tout va lié au mental, en fait.
Bah oui.
Et non. En fait... Quand il pleut des cordes, vous avez compris
ouais, un petit suicide.
Voilà, ouais. C'était un peu ça la blague, on va dire.
Ouais. Bah, c'était sympathique.
Et donc ensuite, la phobie scolaire. Donc c'est lorsque, pour des raisons irrationnelles, tu refuses d'aller à l'école et si on te force à y aller, tu résistes violemment. C'est quand tu refuses de suivre le cours de Monsieur Dupont parce que tu as peur de son haleine. Ou alors c'est une grave et impressionnante maladie de prof qui se caractérise par des convulsions nerveuses et épileptiques à la vue d'un élève. Elle se déclenche en général après 10 ou 15 ans de métier.
J'espère pas qu'ils ont peur de moi, mais la première, je dirais.
Ouais, quoique la troisième, elle était. Je me suis perdue en plein milieu de la définition. Du coup, c'est sûrement la première.
Ouais, parce que la troisième, en fait, déjà, je crois pas que les profs puissent avoir une phobie scolaire. Je sais pas trop, mais
bah, peut-être. Des élèves, peut-être.
Ouais, bah, peut-être bien.
Là, on est en train de nous sauver parce qu'on est des jeunes et tout. Mais
j'avoue, il faut aussi
soutenir. On les oublie pas.
On les oublie pas, les profs.
Ils nous supportent et tout. Mais moi, je me supporte pas. Je sais pas comment ils font.
Ah, voilà. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup. C'était un peu ça que je voulais vous proposer par rapport au jeu de définition. Puisque, en effet, je trouve qu'on a souvent du mal à définir ce qu'on ressent. Et le fait de mettre des mots dessus, ça peut nous permettre, en fait, à savoir ce qu'on doit soigner ou à savoir...
Oui, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on doit faire, quelles solutions prendre pour s'en sortir et pour aller mieux. Et donc voilà, merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à toi. Hein. Surtout que, comme tu disais, il faut mettre des mots dessus. Et en fait, on a tendance à croire que c'est toujours compliqué, mais parfois, c'est des bêtes choses qui nous font stresser, en fait. Mm-hmm. J'ai cassé mon ongle, je suis triste, c'est bon. Enfin, ça, c'est un exemple, évidemment. Je ne croyais pas que je suis triste si rapidement. Mais ouais, c'est ça, hein. Ça peut être de bêtes choses qui nous mènent à... un grand problème, en fait. Il faut pas négliger. Donc, voilà, merci beaucoup. C'est grave bien.
Ah oui, et du coup, on va poursuivre avec une petite expérience que nous avons fait en classe. Et donc, Amani, est-ce que tu pourrais nous expliquer cette expérience ?
Alors, tout d'abord, on a fait un exercice. Donc, on s'est mis par deux et on a dû se regarder... dans les yeux, genre sans parler, sans relâche, pendant 3 minutes. Et ensuite, après cet exercice, on a dû faire un texte qui commençait par dire « Je me suis regardée dans la glace ce matin et j'y ai vu ». Donc on va commencer par écouter les textes. Noé.
Ce matin, je me suis regardée dans le miroir et j'y ai vu un regard doux et plein de vie, un regard frémissant qui m'a tout de même demandé de le souligner et de l'étirer légèrement d'un trait noir. Je suis une femme discrètement coquette. Ce matin, je me suis regardée dans le miroir et j'y ai vu que la journée allait être belle, comme la suite d'ailleurs. Parce que la jeune femme qui m'observe transpire l'envie, le désir et la détermination. C'est une femme qui a décidé d'avoir toujours le choix et ainsi de ne jamais subir. Ainsi sera sa vie.
Ce matin, je me suis regardée dans le miroir et j'y ai vu. Une femme incroyable, courageuse et passionnée par ce qu'elle fait. Pleine de joie et de bonté. J'ai vu une femme qui ne baisse pas jamais les bras et qui encourage les autres de faire pareil. Une femme qui a toujours le sourire sur les lèvres malgré la fatigue ou une mauvaise journée. J'ai vu une femme avec du vécu, mais qui aime la vie, aime ce qu'elle fait. Se donne toujours à fond pour enseigner ses élèves, leur partager un cours intéressant. Ce matin, j'ai vu une femme belle, pleine de confiance et prête à affronter sa journée.
Ce matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une jeune femme simple, fatiguée et qui a du mal à se réveiller, mais souriante et confiante. Cette jeune femme qui réfléchit peut-être sans cesse à son avenir, elle aime vivre sa vie comme elle veut.
Ce matin, je me suis regardée dans le miroir et j'y ai vu une personne qui a de beaux yeux. Mais je n'osais pas me regarder, peut-être que j'ai peur du regard qui pourrait me juger ou peur de dévoiler ma personne à travers mes yeux. Je ne devrais pas, car plein de bienveillance se cache derrière mes yeux. Je m'aime.
Ce matin, je me suis regardée dans le miroir et j'y ai vu une femme sensible, terriblement belle extérieurement comme intérieurement, J'ai vu une femme confiante. J'ai aperçu également la douceur en personne. J'ai vu une femme qui est le reflet de la positivité.
Ce matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme forte, magnifique. Une femme spéciale, irremplaçable, qui mérite tout le bonheur du monde. J'ai vu une femme d'un cœur énorme. Une femme qui se transforme comme un papillon. Une femme sensible, mais en même temps si forte. Une femme profonde et intense, une femme d'or.
Ce matin, je me suis regardée dans le miroir. J'étais fatiguée, mais ce sentiment m'épuisant dès le début de ma journée n'est qu'une source étrange de motivation à me préparer. Me préparer pour me faire belle, pour me rendre heureuse, pour voir mes amis, mais surtout pour pousser mes limites, et tout ça pour finalement trouver ma voie du bonheur.
Merci. Donc, alors durant l'exercice, ça nous a provoqué plusieurs sentiments. Donc, alors ce qui est ressorti, c'était la gêne. Donc, se regarder 3 minutes sans relâche, enfin, c'était impossible pour moi. J'arrivais même pas à la regarder. Et puis il y avait un sort de malaise qui se traduisait par un rire. Au début, on faisait que rigoler. Je me dis, enfin, ça s'arrêtait pas, quoi. Et c'était assez impressionnant aussi comme exercice. Enfin, parce que dans les yeux, on voit tout, quoi. Enfin, on voit ce que la personne dégage. Et me dire que c'est bon, elle va savoir ce que je ressens. C'était impossible pour moi. Enfin, je sais pas si... par exemple, Tatiana, qu'est-ce que t'as ressenti, toi, durant l'exercice ?
De la gêne. Ouais. Ouais, c'est pas évident de se regarder dans les yeux. Mmh. Surtout pendant 3 minutes. C'est long, quoi.
Vous avez encore quelque chose à...
Et surtout que c'est pas habituel, quoi. Je veux dire, souvent, même dans les transports, quand il y a quelqu'un qui croise notre regard, on se détourne vite, on veut même limite partir. Ouais. Donc ouais, non, c'était pas évident. Au début, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gêne, des rires.
Ouais.
C'était vraiment, on voulait tous rigoler. Mais ensuite, petit à petit, en fait, ça devenait juste long et très dur à tenir son regard. Mais voilà.
Mais moi, je pense que surtout, en fait, il faut pas oublier que il y avait pas que de la gêne. Hein. Par la suite, du coup, on a écrit ces textes et c'est même touchant, en fait. Enfin, selon moi, c'était touchant. Ça m'a vraiment touchée.
Ouais.
Et en fait, c'était drôle parce que on a vraiment l'impression que on peut pas nous connaître si on dit rien, alors que au contraire, on sait beaucoup de quelqu'un juste en le regardant. Et justement, cet exercice de 3 minutes, c'était stressant parce que on nous regarde comme si on était un peu un voleur.
Mmh.
On nous regardait comme si y avait que nous sur Terre et on n'a pas tendance à nous regarder comme ça, en fait. Même ma propre maman me regarde pas comme ça, alors que je sais qu'elle m'aime, en tout cas, j'espère. Mais c'est vrai, quoi. En fait, ça perturbe parce qu'on n'est pas habitué, mais au final... Pourquoi pas?
Ouais, c'est marrant, on a commencé sur un truc gênant pour finir sur un beau truc.
On dit rien, donc autant accepter. Hein. Au final, c'était cute. Ouais. Moi, j'aime bien.
Ouais, c'était un peu le miroir de ce que je renvoie.
Ouais,
en fait,
exactement.
Ah ouais, elle me voit comme ça, putain, c'est touchant.
Ouais.
Et puis, ça fait du bien aussi. Mm-hmm.
Ouais, c'est ça. Ça fait grave du bien. Et en fait, on aime beaucoup se descendre. Ça, c'est réel. On se réveille, on est toujours là, oh purée, j'ai un bouton. Alors que qui regarde son bouton, franchement je sais pas, quand je vais marcher dans la rue, oh yeah, il a un bouton et tout. Non, genre, ils vont même pas regarder mon bouton, qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Franchement, ils s'en foutent, hein, c'est réel. Mais en fait, vraiment, dès qu'il y a un petit truc ou n'importe un petit détail sur nous, on voit que ça. Alors que personne regarde, au contraire, ils regardent que le beau de nous. On a eu dans cette expérience, justement, ça. En fait, nous, on a tendance à croire qu'on n'est pas beau, qu'on est nul, ou pas aussi parfait qu'on le voudrait. Mais dans tous nos textes, en fait, bah, c'était que du beau. Ouais. Et c'est ça qu'il faut retenir, en fait.
Ouais, c'était transparent. C'était un moment vraiment transparent.
Ouais.
De l'exercice jusqu'à la fin.
Il pleut des cordes. Ouais.
Bah, en tout cas, je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut vraiment en Belgique ici. La météo, ce n'est pas l'idéal. Donc, je vous invite pour qu'on s'évade un petit peu, qu'on parte sur les îles du Brésil avec une petite musique qui va nous permettre de partir. Merci beaucoup pour la musique. Alors, on a une nouvelle invitée à table, c'est Shaima. Comment ça va ?
Je vais bien, merci. Du coup, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Shaima, j'ai 19 ans. Je suis un peu stressée, mais j'espère que tout va bien se passer.
Mais oui, bien sûr. On est là pour passer un bon moment tous ensemble. Alors, Hélène, donc c'est toi qui as choisi cette musique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette musique ?
Oui, tout à fait, c'est moi qui ai choisi la musique. Et en fait, j'ai choisi parce que ces sortes de musique, ça me fait penser à mon pays. Et du coup, comme j'habite en Belgique, ça fait beaucoup comme aujourd'hui. Ça me fait voyager un peu dans un pays où il y a beaucoup de soleil. J'aime ça un peu chaud.
Et du coup, j'ai entendu que tu as fait aussi un micro-couloir par rapport à la musique. Est-ce que tu peux nous dire plus ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait un micro-couloir par rapport aux bénéfices de la musique et de la musicothérapie avec Noé.
Donc, on va lancer le micro-couloir. Je pensais qu'il allait parler plus, en fait.
Micro-couloir.
Bah, la musique m'aide beaucoup. J'écoute énormément de musique pour aller dans un train, pour aller me promener, même pour dormir, j'écoute de la musique, même si c'est pas bon pour les oreilles.
Le matin, dans le métro, pour aller à l'école.
Quand je suis déprimé, quand j'ai à faire mes devoirs.
Quand je dois prendre une douche, quand je dois travailler.
Quand je dois me concentrer ou juste quand j'ai envie de me détendre.
Enfin, un peu le plus souvent possible.
Est-ce que la musique t'aide à sortir de mal-être ?
Oui, beaucoup. Ça aide beaucoup.
Ouais, vraiment, ça m'a beaucoup aidé quand j'allais le plus mauvais au point dans ma vie. Et je pense que sans musique, le monde serait plutôt à chier et on serait tous malheureux, en fait.
Ça m'apporte beaucoup de bonheur, souvent, parce que j'aime les musiques joyeuses.
Et quand tu vas mal, quel genre de musique tu écoutes ?
J'ai deux types de musique, soit c'est de la musique déprimante pour faire ressortir mes émotions, soit c'est de la musique plutôt du heavy metal pour faire ressortir ma rage.
Il y a beaucoup de gens qui essayent de... Enfin, quand ils sont tristes, ils essayent de se mettre encore plus mal, d'écouter des chansons tristes et tout. Sauf que moi, j'aime pas en fait. Quand je suis triste, écouter des trucs tristes, du coup, bah, je mets des chansons qui me remontent le moral et qui me boostent en fait.
J'écoute soit du Renaud, que je vous conseille, qui est Pierrot, ou Florent Pagny, qui me fait énormément pleurer, qui est le Soldat.
Et qu'est-ce qui t'attache plus dans la musique, les paroles ou les mélodies?
Souvent la mélodie, parce que je suis danseuse. Du coup, bah, la mélodie me permet de plus m'évader.
Je suis vraiment beaucoup attirée par la mélodie des chansons. Mais le lyrique aussi est très important pour moi. Genre, ma chanteuse préférée, de base, j'aime ces chansons pour ses lyriques, en fait. C'était leur suite.
Si j'avais une musique là maintenant à retenir, c'est After Dark de Mr. Kitty. J'ai l'impression d'être transporté dans un autre monde, j'ai l'impression d'être juste dans ma bulle où la personne d'autre est juste moi, mais juste mes émotions.
I'm in a getaway car, I left you at the motel bar, put the money in the bag and I stole the keys, that was the last time you ever saw me.
Bon, alors qu'on parle de malaise et des sources de bien-être, je pense directement à la musique. Parce que la musique, c'est une arme en fait, que j'utilise pour me sentir mieux quand je ne vais pas bien. Et au coup, je me suis intéressée par rapport aux bénéfices que procure la musique. Et en fait, j'ai trouvé la musicothérapie, une méthode utilisée en fait, qui vise en fait, à rétablir les capacités sociales, mentales et physiques aussi de l'individu. En aidant à libérer l'expression, à favoriser la créativité, à relâcher aussi. Et en fait, cette méthode, elle utilise deux approches distinctes. Il y a la musique active, qui propose des exercices vocaux, rythmiques, composition des chansons, et à le but de favoriser l'expression de soi. Parce qu'il y a des gens aussi qui, en fait, ils n'arrivent pas à s'exprimer, c'est mon cas. Du coup, j'utilise la musique comme une manière
de t'exprimer
exactement. Et oui, je pense que c'est important aussi de les gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, ils ont pu avoir l'opportunité de pas vraiment avec la parole, mais d'autres manières. Du coup, c'est très intéressant que j'ai trouvé cette méthode là. Et il y a aussi la musicothérapie réceptive qui permet d'agir sur la concentration, la mémoire et les émotions des gens.
Et, merci beaucoup. Alors, pour cette explication de la musicothérapie, personnellement, j'écoute beaucoup de musique, donc je savais que la musique, ça existait, on va dire, mais la musicothérapie, c'était très intéressant d'avoir parlé de ça. Et donc, quand on parle de musique... on peut aussi parler de passion, puisque la musique, ça peut être une passion. Et donc, on va directement parler des passions avec Shaima. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, moi, j'ai abordé la proposition de la passion. Tout d'abord, une passion, c'est quelque chose qui nourrit nos émotions, qui nourrit nos...
T'inquiète pas, stresse pas. Calme-toi, tout va bien. Bon, ça c'est le stress, le rire, ouais. Mais c'est pas grave. Tout le monde.
Ça va aller,
Ouais. Oh, t'es toute nue.
Du coup, désolée, j'ai un peu stressé.
Pas de soucis.
Du coup, je vais revenir à ce que j'ai dit. Du coup, j'ai abordé la proposition de la passion. Tout d'abord, une passion, c'est quelque chose qui nourrit nos émotions, qui la domine et qui la satisfait. Alors là, je vais parler un peu de moi, comment j'ai découvert ma passion et comment elle s'est développée au fil du temps. Moi, ma passion, c'est sur l'univers japonais, tout ce qui est manga, animation et le dessin. Je l'ai découvert à l'âge de 11 ans, quand je suis allée pour la première fois à la bibliothèque. J'ai pris un manga au hasard. Au début, j'avais pas vraiment un grand intérêt, c'était juste un passe-temps, jusqu'à ce que je sente une sorte d'évasion, et où je pouvais traverser genre deux mondes différents, genre le réel et l'imaginaire, qui pouvait énormément me réconforter quand j'étais au plus mal. Et vraiment, ça a énormément développé mon côté imagination, car avant, je n'avais pas forcément énormément. Genre vraiment, ça m'a appris vraiment à énormément imaginer. Il faut aussi savoir qu'une passion n'est pas forcément un talent. Elle se travaille, parce que moi personnellement, ma passion n'est pas forcément un talent. Genre vraiment, je la travaille. Exemple comme le dessin, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé et j'espère que ça deviendra un jour mon talent. Et on ne doit pas se sentir limité dans nos recherches, parce qu'une passion peut être tout et n'importe quoi. Exemple, il y a des personnes qui aiment bien, elles sont passionnées de billes ou par rapport au maquillage pour se sentir satisfaites, et etc. Et on a tous une chose pour laquelle on a été faite, c'est plutôt le manque de patience et d'expérience et de la frustration qui nous démotive à la chercher. Et le plus souvent, les personnes qui sont passionnées sont plutôt valorisées par la société. Et certaines personnes se sentent du coup exclues du groupe et se sentent inférieures. Et cela développe un certain malaise, un certain mal-être et une sorte de pression. Du coup, ils se forcent à chercher une passion, or que pas du tout. Prenez votre temps. Moi, exemple, ça m'a pris 11 ans pour la chercher. Là, des personnes, ça prend, exemple, 40 ans, voire plus. Mais du coup, vous ne vous sentez pas découragé. C'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils comment la trouver. Déjà, il faut fouiller en soi, se poser des questions, énormément s'observer. Genre c'est en s'observant qu'on pourrait la trouver, et souvent ce qu'on aime est en lien avec la passion. Genre moi, j'aimais beaucoup dessiner, du coup c'était vraiment en lien avec ma passion. L'univers japonais, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, je vous laisse avec la présentatrice.
ouais. Alors, merci beaucoup. Franchement, je trouve que c'était vraiment sympa ce que tu nous partages, parce que c'est vrai qu'on a peur, en fait. Parce qu'on est habitué à toujours vouloir être cool, sympa, intéressant. Et quand on se dit que, ouais, tout le monde a une passion, moi, je suis juste sur mon canapé. Mais en fait, non, tranquille, ça peut venir avec le temps, comme tu le dis. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire, parce que tu dis que ça t'a pris 11 ans, mais au début de ta vie, de toute façon, t'étais en pampers, donc... Je vais pas te mentir, mais bon, heureusement, en même temps que t'avais pas une passion, quand tu savais même pas encore marcher, ça aurait été bizarre. Mais donc, oui, ayez pas peur, comme j'allais dire Shymix, parce que je l'appelle comme ça, mais Shaima vous l'a dit. Donc, merci beaucoup, encore
avec
une
plaisir.
Fois.
Et donc... En effet, les passions, ça peut être vraiment, comme tu l'as dit, tout et n'importe quoi. Hein. Moi, personnellement, j'adore manger, c'est ma passion, j'adore dormir. Donc vraiment, faut pas stresser. Et même si, sur le coup, vous faites pas de l'équitation, du football professionnel, c'est que vous êtes moins valorisé que d'autres personnes qui ont cette passion.
Faut avoir aucune honte, il n'y a rien de gênant là-dedans.
Ah oui, non, bien sûr, dans tous les cas, tout le monde est différent et...
Ouais, c'est
quelqu'un
ça.
Peut être très fort et être un footballeur pro, alors que toi, tu peux avoir des qualités beaucoup plus différentes que la personne ne les a pas. Mais avec Alina, du coup, tu nous as préparé une petite poético-décalée sur les spécialistes.
Effectivement.
Du bien-être mental. Donc,
oui, genre... Pourquoi j'ai dit genre ? Je sais pas. Alors, j'ai préparé quelques métiers. Qui se base vraiment sur le mental, en fait. Et donc, j'aimerais bien que vous compreniez un peu les différences entre ceux-ci, afin que vous puissiez, si besoin, vous diriger vers l'un ou l'autre. Ou pas, d'ailleurs, c'est pas obligé. Alors, nous avons tout d'abord le psychologue. Donc, il est un peu comme votre ami, il est là, il vous écoute sans vous juger. Et il vous aidera du coup à trouver des solutions et les réponses à vos questions. Donc il est là pour vos bons et vos mauvais moments. Hein. Faut pas croire qu'il est là que pour écouter les dramas, tranquille. Ensuite, nous avons le psychothérapeute. Lui, c'est un peu comme votre journal intime. Donc il va prendre note de tout ce que vous lui dites et il va ensuite vous les transmettre à sa manière. Donc il va vous aider à résolver ou... un peu
atténuer vos soucis et donc avancer plus sereinement dans l'avenir. Ensuite, nous avons le kinésithérapeute. Ouais. J'ai bugué. Alors, donc lui, il veut que vous vous sentiez bien mentalement, mais aussi physiquement. Donc, le corps est pour lui tout aussi important. Il veut comprendre toutes vos douleurs et vous aider à trouver une alliance avec votre amour propre et de votre bien-être dans son ensemble. Nous avons l'hypnothérapeute. Donc lui, c'est un peu plus cool. Il veut que vous rêviez. Il veut dénicher toutes les épines qui sont coincées dans votre histoire et ainsi vous aider et à donner une chance et d'avancer en fait tout simplement comme vous le désirez. Nous avons le psychomotricien. Donc lui, il veut que votre corps et votre esprit soient en harmonie. Il est là pour que tout l'ensemble de vous ne soit plus qu'un. Donc ça, c'est un peu simple, c'est un peu votre maman. Ensuite, nous avons le psychanalyste pour terminer. Lui, il est là pour vous faire une sorte de cure, pour que vous puissiez explorer votre inconscient et apprendre un peu à vous contrôler. Voilà. J'espère que ça va être un peu clair et que ça vous a aidé.
Bien sûr. Et donc, on va directement passer et se focus sur la kinésiologie avec Amani.
Je vais vous parler de la kinésiologie. Donc, c'est une pratique psychocorporelle. Donc, comment ça marche? En fait, la spécialiste prend le corps dans son ensemble et elle va mettre en lumière les causes du mal-être et elle va apaiser les douleurs physiques et psychologiques. Et on se demande pourquoi on utilise le corps. Parce que le corps, c'est le reflet et le refuge de notre état d'esprit, de nos émotions, de nos stress. Donc quand on stresse, quand on angoisse, ça répercute aussi dans notre corps, pas que dans notre mental. Et il faut savoir qu'aussi que l'être humain, il est fait de mental, mais il est aussi fait de chair. Donc il faut en tenir compte. Et pourquoi il faut aussi oser d'aller vers ce genre de spécialiste? La kinésiologue, elle va jamais vous mettre elle va jamais vous juger. Donc pour elle, c'est son travail d'être là, de vous guider vers votre travail, qui est fait en grande partie grâce à nous, en fait, à nous-mêmes. Enfin, je parle de moi aussi parce que je fais cette
thérapie. Tu fais, ouais, etc.
Et donc, et c'est aussi à nous d'être libre de parler de certains sujets quand on est prêt. C'est-à-dire, elle va aussi détecter cette chose-là et elle va le respecter. Elle va nous mettre en confiance, de toute façon, dès le début. Pour ma part, c'était spontané, quoi. C'était naturel. Elle m'a d'abord posé une question en me disant, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es là? Je me suis présentée. Et puis, elle a commencé à faire les exercices sur mon corps. On a remarqué que mon corps a vécu beaucoup de traumatismes et je n'étais pas au courant. C'est vraiment pour dire que le corps, il est là, quoi. Et il faut en prendre compte. Il faut aussi écouter son corps. Et c'est pour ça que c'est important pour l'homme de trouver un équilibre entre le mental et le corps pour se libérer de certains malaises.
Ouais, merci beaucoup, vraiment, parce que... Et il ne faut pas avoir peur, il faut oser d'aller voir des spécialistes, et ce n'est pas quelque chose de honteux, en fait, il ne faut pas avoir honte. Et donc, on va directement passer à une prochaine musique que Hélène a choisie.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. ¿Sabes? celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera.
Alors, nous avons écouté La Fama de Rosalía, que Hélène nous a choisi. Mais on va passer à Mehdi, parce qu'en fait, Mehdi, j'ai vu un papier entre tes mains. Je suis un peu curieuse. Qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est une lettre que j'avais écrite. Enfin, que j'avais écrite à un ami qui s'appelle Chris. C'est un ami qui avait décroché. Justement. Enfin, oui, qui avait vraiment décroché par rapport à l'école. Et donc, je voulais vous lire cette lettre tout de suite.
Oh, c'est gentil. Merci.
Hey Chris, je ne te vois plus. Tu es malade. Tu as des problèmes. Quoi qu'il en soit, j'avais envie de t'écrire cette lettre, car cela me trottait dans la tête depuis un petit temps. J'ai senti un coup de mou niveau motivation scolaire, et c'est fort compréhensible car je pense avoir eu la même situation que toi. Je ne veux pas te bousculer, mais je pense qu'il est nécessaire que quelqu'un puisse te booster. Si je ne le fais pas, je m'en voudrais. Tu sais que l'absentéisme peut vite te mener à l'abandon scolaire. Ça a été le cas pour moi. Le coronavirus est arrivé. Une période comme pour beaucoup, très difficile. Énormément de changements ont dû être mis en place dans les écoles. Ce changement qui m'a personnellement fait décrocher, en particulier la mise en place des cours à distance. Pour ma part, ma motivation a vite baissé quand j'ai dû moi-même prendre en main la gestion des cours et des travaux. Derrière nos écrans, on est souvent livré à nous-mêmes. J'ai eu du mal à faire face à la situation, ce qui m'a énormément pesé et découragé. Suite à ça, ma motivation et ma concentration étaient fortement perturbées et j'ai décroché complètement en me renfermant sur moi-même, ce qui m'a valu de rater mon année scolaire. Je n'ai pas envie à ton tour de te voir isolé et que tu perdes le rythme scolaire, car ce n'est pas sans conséquence. Qu'est-ce qu'il est dur de se remettre dans le bain, à nouveau se réveiller à 7h du matin et de tenir bon sur un banc d'école. Tu sais, aujourd'hui, j'ai encore des retombées, mais je me suis engagé. Engagé à être diplômé dès cette fin d'année, car on m'a donné cette opportunité ici au sein de l'Institut Sainte-Marie. D'ailleurs, cette chance, on me l'a accordée au sein d'une classe plus petite, plus à l'écoute, et cerise sur le gâteau qu'avec des filles, lol. Tu sais, je me suis rendu compte, un peu tardivement, de ce décrochage compromettrait l'obtention du CESS. Et celui-ci est le minimum pour avoir des chances d'embauche aujourd'hui. Cependant, je ne suis personne pour prédire tes ambitions ou tes perspectives d'avenir. D'ailleurs, tu as peut-être un attrait pour le marché du travail aujourd'hui. Je comprends que le goût de l'argent peut te mener à quitter l'école prématurément, mais il est important d'avoir un bagage en cas d'échec. Tu savais que, pour nous les jeunes, le décrochage scolaire augmente le risque de voir notre bien-être et notre santé se détériorer, et cela, quelle qu'en soit la cause. De plus, quand nous n'avons pas de diplôme, le risque de chômage augmente à l'âge adulte. La jeunesse est une priorité car c'est nous, le monde de demain. Il est très important que tu puisses te remettre en question pour agir sur ce point. Ne laisse pas le temps couler, il passe tellement vite. Et au plus tu attendras, au plus il sera difficile de te rattraper, croisant mon expérience. Je pense aussi que le rôle de ton entourage est crucial. Tes parents, tes frères et sœurs doivent essayer de te booster au maximum pour que tu puisses suivre les cours, même si tu as des difficultés à te réveiller le matin ou surmonter la peur d'aller à l'école. Entoure-toi de personnes qui peuvent te relancer sur la bonne voie, car seul, on n'y arrive pas, à moins d'avoir un mental d'acier et une rigueur irréprochable. Toutefois, il est essentiel d'avoir une bonne communication entre l'école et la maison pour que tes parents soient informés en cas de relâchement. Aujourd'hui, hormis mon réveil, j'ai compris que j'avais besoin de quelqu'un auprès de moi, d'une part pour me réveiller tous les matins et de l'autre pour encadrer consciencieusement mes travaux à faire pour l'école. La vie est une perpétuelle remise en question. De temps en temps, il faut faire face à son ego pour pouvoir avancer vers ce qui a de meilleur pour nous sans passer par la facilité. Et je terminerai cette lettre par cette citation. Les humains se plaisent à penser qu'ils peuvent se débrouiller seuls, mais l'homme, le vrai, sait que rien ne vaut le soutien et les encouragements d'une bonne équipe.
Merci. Alors, merci à toi.
Merci à vous de m'avoir
écouté. C'est franchement touchant. En fait, tout le monde n'aurait pas pensé à faire une lettre à son ami parce qu'il est en décrochage scolaire, pardon. alors que, en fait, c'est motivant et on se sent soutenu. Alors que quand on est dans ce genre de situation, on croit toujours qu'il faut justement éviter d'en parler parce que c'est gênant, parce que les gens croient qu'on ne veut pas travailler ou quoi, alors que peut-être que justement c'est une source
beaucoup
plus profonde et triste.
J'étais dans ce cas-là, j'ai eu un petit décrochage scolaire, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu laisser tomber mon ami Chris, surtout que c'est mon meilleur ami, donc voilà quoi. Et je pense que il faut pas se renfermer sur soi-même, il faut se livrer à des personnes importante à nos yeux. Enfin, faut pas se livrer à n'importe qui non plus, parce que on pourrait très bien nous donner des conseils, mais enfin des mauvais conseils quoi. Et je sais que aussi il y a le PMS à l'école, ou une éducatrice qui peut être à l'écoute. Pour vraiment essayer de rebooster l'élève quoi qui est en difficulté.
Oui. Bah c'est ça en fait, parce que depuis tout à l'heure on parle de psychologue ou quoi, mais il y a aussi le PMS, c'est vrai.
Ouais.
Donc merci beaucoup.
Donc on va poursuivre avec Swaïla. Donc qu'est-ce que tu nous as préparé, Swaïla?
Bonjour, je m'appelle Swaïla et j'ai 21 ans et je voudrais relater ma promenade dans la nature et les bienfaits que cela peut apporter. Je suis quelqu'un de solitaire. J'aime bien le fait de sortir seule, quitter mon domicile, m'asseoir quelque part dans des endroits à l'écart, m'isoler, écouter des chants des oiseaux et les bruits de la nature. Si aujourd'hui je suis comme cela, c'est qu'il y a eu des choses qui ont fait que je suis devenue comme cela. On a tous rencontré des difficultés, des phases plus problématiques au cours de notre vie. Et c'est à cause de toutes ces choses-là que je me suis enfermée sur moi-même. Je me sentais vide de l'intérieur et je cherchais à éviter le plus de gens possible. Bref, aujourd'hui, la journée a été particulièrement stressante. J'ai eu beaucoup de pensées négatives et après avoir terminé les cours, je prends la décision d'effectuer une balade. Je m'éloigne de l'école et je parviens à faire le vide. Je me dirige vers le parc Marie-Josée, dans la commune de Molenbeek. Arrivé là, je m'assis sur un banc et j'écoute de la musique, car ça m'apaise énormément. Et peu à peu, je me détends. Je m'évade et se recentrer sur moi-même. J'essaye d'oublier mes problèmes et je me relève. Je me rappelle que si je suis dans cette vie-là, c'est que je dois accomplir mes rêves, de pouvoir avoir une fierté, même si des fois c'est un peu compliqué d'en parler. Aller se promener au parc, dans la nature, pour moi c'est un remède pour se soigner et une source d'apaisement, de tranquillité, se détendre physiquement et mentalement, et aussi d'exprimer mon mal-être, que ce soit la dépression, la colère ou la haine. Et effectivement, j'ai pu constater et je vous prouve que la nature apporte beaucoup de bienfaits et pour les humains par rapport à la santé mentale.
Merci beaucoup. Et donc j'aimerais juste qu'on conclue un petit peu donc notre podcast. Et par ça, j'aimerais vous poser un petit peu une dernière question. C'est de qu'est-ce que vous avez retenu de toute cette émission, en fait, et qui peut vous faire du bien. Donc, Shaima.
De ce que j'ai retenu, j'ai trouvé que tout le monde avait un moyen comment combattre son mal-être, sa dépression, toute chose. Du coup, j'étais vraiment surprise par ça, que chacun avait sa solution. Et
qu'il y a toujours des solutions dans la vie.
Ouais, dans la vie.
À chaque problème.
Et que si vous sentez mal, enfin, comme on l'a dit, il faut en parler. Et si vraiment vous sentez que vous êtes capable de le surmonter, ben, comme j'ai dit, avec soit la passion, soit, comme elle a dit, Swaïla, avec la nature, se balader. Exactement. Et aussi, comme elle a dit, Mehdi, avec une personne qui vous motive. Et etc. Du coup, je vous laisse avec la prochaine personne qui voudra dire quelques mots.
Oui, donc par rapport à ce que Swaïla nous a raconté, c'est vrai que des fois, rester trop chez soi, on a tendance à être sous pression. Et c'est mieux d'aller s'évader dans un parc et avoir et de remettre ses idées au clair. Parce que moi, par exemple, quand je reste trop chez moi, c'est comme si je pétais un câble, quoi, et donc je pars m'aérer. Je vais voir mes potes genre une heure, puis je reviens à la maison. Et donc ça m'a permis de me libérer en moi. Et donc voilà. Donc,
ouais.
Qui voudrait prendre la parole?
Moi, j'aimerais bien parler quand même. Ouais. Hein, on a remarqué, j'aime trop parler. Mais donc, franchement, j'ai l'impression qu'en fait, comme Shaima l'a dit, on a tous notre propre manière de s'évader, de se sentir mieux. Donc, en fait, c'est la preuve qu'on est tous différents. Donc, il faut accepter ça. Il ne faut pas tout le temps croire que parce que ça fait du bien tel que moi, je dois faire pareil ou que parce que lui, il croit qu'il a une passion incroyable, donc moi, je dois avoir... Non, vous êtes tous pareils, vous êtes tous parfaits comme vous êtes. Donc, aimez-vous, apprenez à vous aimer. Et en fait, continuez tout simplement à faire comme vous le désirez, tout ce que vous voulez. Et j'espère que ça va vous aider, que vous en aurez tiré des bons conseils, qu'on vous aura aidé. Mais surtout, prenez soin de vous.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à toutes les personnes et toutes les camarades de la classe qui étaient là.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir. Merci.